tout ce qui nous laisse, passant tout ce qui nous reste. Combien des notes finiront par retourner leurs fesses. La rage de vivre et de vivre l'instant présent, de choisir son futur libre et sans leur cri d'au présent. La rage, car c'est la merde et que ce monde y adhère. Et parce que tout leur champ OGM stérilise la terre. La rage pour qu'un jour l'engrenage soit brisé. La rage car croulisse vérité sur leur écran télévisé. La rage car ce monde ne nous correspond pas. Nous nourrissent de faux rêves pour placer leur rempart. La rage car ce monde ne nous correspond pas. Où Babylone s'engraisse pendant qu'on crève en bas. On restera debout quoi qu'il arrive. J'arrive jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. On pourra plus taire ni s'asseoir dorénavant. On tiendra prêt parce qu'on a la rage, le cœur, la foi. On restera debout quoi qu'il arrive. J'arrive jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. Rien ne pourra plus nous arrêter. Insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté.
Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de La Rage du Peuple. Aujourd'hui, on va faire le tour de l'actualité comme à notre habitude pour ensuite avoir deux chroniques différentes. L'une qui va porter sur la Colombie d'après un article qui est paru dans Le Monde diplomatique de ce mois-ci. Puis, on va bien sûr mettre en lien le tout avec des nouvelles de l'actualité. Et puis, un autre sur Longomaille qui a une expérience d'autogestion un peu et d'autosubsistance se produit toujours et qui s'est produit dans le passé en France à l'initiative de plusieurs militants révolutionnaires. On va aller continuer tout de suite en musique avec une chanson de Webster qui s'appelle « Des armes ou des vivres ».
Bonne émission.
Personne veut prendre de gros coups. La rébellion se traîne, mon histoire gêne. Alors on modifie les choses, on modifie nos chaînes. Avoir vérifie, le monde un livre ouvert. Dans la Bible on apprend à lire. Le sol, l'univers, laisse tomber la masse. Et cherche l'individu, et cherche à reconstruire ce qui reste qu'on a perdu. Les guns pas, parce que les gars ont plus de mots. Et quand le crack aura des yeux, tu sauras de quoi je te parle, gros. Tu parles alors qu'il est le monde dingue. La raison suffoque, regarde, ça s'entraîne dans tous les blocs. Des vies, des livres, des écus, du foot, des vêtements à toi, le droit de vie avant qu'on le prenne par les armes.
Leur bureaucratie grave, notre gourou puisse s'éteindre. Parmi les villes et les campagnes,
et pour ça, ça prend des vies.
On le faisait qui espérait, parce qu'au moment d'expirer, qu'il soit phare avec une arme qui espérait. On veut des armes ou des vies, vaincre les armes, c'est divise. Et que les drames nous divisent, dans le crâne de nos ennemis. Dans un set, pour une question de territoire, mais tout n'est pas si simple, peu d'espoir pour le territoire. Ce web, elle est casse-nec. Révolution qui fait correct dans une case maxique, qu'on devient asthmatique. Parlementaire, d'année des politiques et tracks de parlementaire. Nix, casse qu'on met en tombe. C'est du monde, y'a trop d'agents corrupteurs. Ce nouvel ordre mondial nous saoule ad nauseam. Troisième millénium change, je vois comme l'hélium change aussi souvent d'allégeance que petit Eliane. Gonzalez, j'attends la révolution, marche avec mes Gonzalez. On est comme les ombres de la dèche, c'est terrorisme frais pour le monde qui stagne. C'est signe Mr. Web qui est le vieux de la montagne.
Ouais, des armes, tu parles alors qu'il est le monde est dingue. La raison suffoque, regarde, ça s'entraîne dans tous les blocs. Des vies, des livres, des écus, du foot, des vêtements à toi, le droit de vie avant qu'on le prenne par les armes.
Leur bureaucratie grave, notre bourreau puisse s'éteindre. Parmi les villes et les campagnes,
et pour ça, ça prend des vies.
On le fait et qui espérit, parce qu'au moment d'expirer, qu'il soit phare avec une arme qui espérit.
Yo, des armes ou des vies, faut garder l'équilibre, mais crois-moi, on va toujours rester debout pour le people comme Kwame Nkrumah. Avec un million de cousins, ils sont le mode survival. Toi, savoir qu'ils ont ton back, c'est du combien ça vaut. Un point d'interrogation courbé comme le doigt sur la la gâchette. En 2001, dans le black de sa face cachée, nos parents lui tenaient à ce qu'on termine nos épinards. Mais est-ce que faire des balles de gun aurait pu nous rendre aussi forts? Il faut être libre physically, si on veut l'être mentally. T'essayes de vivre en paix ici, mais ton état d'esprit très lié aux places où ça chauffe. Tous les quartiers au bord de meurtre, au Cambodge, à Nairobi, à Johannesburg. Des kids avec des weapons sur eux qui font deux fois leur poids et qui ont besoin de marcher des kilomètres pour trouver un repas. Ici, on cherche comment réagir. Au pire, je serai ton bras droit. Tes genoux quand t'es fatigué, le gardien de mon brother.
On veut des armes, tu parles alors qu'il est le monde des dingues. La raison suffoque, regarde, ça s'entraîne dans tous les blocs. Des vies, des livres, des écus, du foot, des vêtements à toile, droit de vie avant qu'on le prenne par les armes.
Leur bureaucratie crame, notre bourreau plus s'éteint parmi les villes et les campagnes. Et pour ça, ça prend des vies, on le fait, c'est qu'est spirit. Parce qu'au moment d'expirer, qu'il se va faire avec une arme qui est stérile.
On a des retours en ondes sur CFélix 95.5 pour débuter cette émission de la Rage du Peuple avec l'actualité. On va commencer tout de suite avec une annonce qui concerne l'Afghanistan, un dossier qu'on aime beaucoup nous autres ici pour se rappeler de temps en temps qu'on est un pays en guerre, puis bien que ça ne paraisse pas, on subit davantage les contre-coups de la crise financière plutôt que ceux des bombes de l'armée étrangère. Mais non, c'est nous qui le font subir avec nos bombes de la paix et nos balles de la paix pour la destruction de la paix. En tout cas, bref, c'est en Afghanistan que les forces armées canadiennes ont ouvert une enquête sur les allégations qui voudraient que deux enfants soient morts lundi dernier des suites d'une explosion d'un engin que des militaires auraient laissé derrière eux. La population du village de Salahen, qui est dans le district du Panjwahi, à une quinzaine de kilomètres de Kandahar, accuse l'armée canadienne d'avoir laissé derrière elle un engin explosif qui aurait finalement sauté en tuant deux jeunes garçons. Furieux, des dizaines d'Afghans ont manifesté devant le bureau du gouvernement à Kandahar, scandant « mort aux Canadiens ». Un porte-parole de l'armée, le major Mario Couture, a confirmé que les troupes canadiennes avaient réalisé des exercices dans ce secteur dimanche, mais que les militaires s'étaient conformés à la procédure et avaient nettoyé le site avant de quitter. Donc, les autorités locales ont pointé du doigt les talibans sans cependant en faire la preuve. C'est un peu ridicule de vouloir faire porter le chapeau aux talibans alors que c'était une zone d'entraînement canadienne, bref. C'est toujours un bon bouc émissaire pour détourner l'attention puis calmer les passions. Une autre nouvelle en lien, c'est dans le fond l'envoi de 17 000 soldats en Afghanistan, soldats américains, cette fois-ci conformément au souhait de Barack Obama qui est de faire de l'Afghanistan sa guerre préférée. D'ailleurs, selon Nancy Pelosi, ça ne serait pas le début d'une escalade. L'envoi des troupes devrait, selon elle, être jumelé dans le fond à une technique pour combattre la corruption systématique du gouvernement et réprimer également le trafic de drogue. Seulement, le problème, c'est que le gouvernement qui a été mis en place, on s'entend, l'a été fait par la coalition. Et puis, c'est depuis aussi la fin du règne des talibans que le trafic de drogue a repris. Donc, on se demande si ça va, s'ils vont complètement changer leur technique pour pouvoir amener un quelconque changement ou non. Mais c'est mal parti. Une autre nouvelle, cette fois-ci, qui concerne le taser. D'ailleurs, depuis la dernière fois qu'on a parlé du taser, il y a une nouvelle victime qui a succombé après une décharge de taser. Si je me souviens bien, c'est en Nouvelle-Écosse. Mais cette fois-ci, c'est un retour sur un événement qui s'était passé il y a déjà un moment. C'est, dans le fond, Robert Dziekanski qui était mort à la suite d'une 5 décharges de taser à l'aéroport de Vancouver. Bref, un des policiers de la Gendarmerie royale du Canada qui avait fait face à Robert Dziekanski la nuit de sa mort a affirmé qu'il avait craint pour sa sécurité quand le ressortissant polonais avait adopté une attitude combative avant d'être tasé à 5 reprises. Puis ce qui est exceptionnel dans ce cas-là, c'est que, bref, Tout ça, c'est que le policier témoignait lundi à l'enquête publique sur la mort de Dziekanski. Puis c'est l'agent Jerry Rundell qui avait déclaré que l'homme était agressif à ce moment et que l'agent avait envoyé une première décharge. Voyant que le Polonais ne tombait pas, il avait envoyé une seconde charge en tout et puis c'est 5 qui ont été données. Il est mort les minutes d'après avoir été taisé. Puis aucune accusation au criminel qui va être retenu contre les policiers. Seulement, dans ce cas-ci, ce qui est intéressant, comme je disais, c'est qu'on peut voir sur Internet la vidéo qui montre l'arrestation de M. Dziekanski. Puis c'est de voir qu'il y a 4 policiers, alors que le RCP disait qu'il y en avait seulement 3. C'est 4 policiers qui essaient de parler aux ressortissants polonais, mais bien sûr, ne pouvant pas le comprendre, ont décidé tout de suite de le taiser. Puis c'est vraiment genre une décision qui est abusive. Puis c'est 5 reprises qui a été faite, alors qu'ils sont 4 personnes, je veux dire, 4 personnes qui ne sont pas capables de mobiliser une seule. J'ai de la misère à le croire. Puis c'est tout simplement, je veux dire, c'est une des preuves pourquoi le taser, c'est une mauvaise arme. C'est que les policiers vont l'utiliser comme un raccourci plutôt que d'avoir à faire une vraie opération, une vraie intervention, à engager un rapport avec une personne qui serait agressif ou à risque. Bien, c'est d'utiliser tout de suite le taser uniquement pour se débarrasser, pour gagner du temps, puis, ou surtout, j'imagine, pour se défouler. Puis, chose déplorable, c'est qu'aujourd'hui, à Ottawa, il y a une délégation de policiers de partout au pays qui ont plaidé en faveur de l'utilisation du taser et qui affirmaient que le taser sauvait des vies. C'est intéressant. Leur point de vue est très intéressant. C'est peut-être pour ça qu'ils souhaitent l'utiliser. Puis ils ont d'ailleurs déclaré que chaque policier canadien devrait pouvoir l'utiliser. Personnellement, adviendrait le cas, moi aussi, je voudrais pouvoir me défendre dans un cas où un policier serait agressif. J'aimerais pouvoir le taiser également sans préavis, bref. Une autre nouvelle décourageante. Sinon, pour continuer un instant, je me retrouve dans mes feuilles. Les sanctions américaines contre Cuba auraient échoué. Dans le fond, les sanctions qui ont été imposées pendant 47 ans par les États-Unis contre l'île de Cuba ont échoué, a estimé lundi dans un rapport le sénateur américain républicain, c'est pas n'importe quoi, il est républicain, Richard Lugar. Une citation ici. « Après 45 ans, l'embargo unilatéral de sur Cuba n'a pas réussi à atteindre son objectif d'apporter la démocratie aux Cubains », écrit dans son rapport le sénateur Lugar, membre de la Commission des affaires étrangères du Sénat. La politique américaine actuelle a beaucoup de défenseurs et leurs critiques du régime de Castro sont justifiées. Néanmoins, nous devons reconnaître l'inefficacité de notre politique actuelle et nous mettre d'accord avec le régime cubain d'une façon qui mette en valeur les intérêts américains, poursuit le sénateur. Qui s'est vraiment pris 47 ans avant qu'il se rende compte que ça foutait juste de la merde sur l'île puis que ça servait aucunement le peuple cubain, qui ont juste fait affamer le peuple, qui ont fait stagner l'économie cubaine. C'est 47 ans plus tard. Félicitations. C'est vraiment une perspicacité incroyable. Je suis renversé. Donc, pendant la campagne présidentielle, Barack Obama s'est prononcé en faveur d'un allègement des sanctions imposées par les États-Unis à Cuba, en autorisant notamment les Américains d'origine cubaine à se rendre dans l'île et envoyer sans limite de l'argent à leur famille. Le Congrès devrait examiner prochainement un projet de loi en ce sens. Seulement, M. Obama n'a pas davantage précisé sa politique envers Cuba depuis son arrivée à la Maison-Blanche le 20 janvier. Je gage que rien ne va changer dans le dossier grâce à M. Obama. C'est peut-être juste une impression. Néanmoins, c'est le fun, après 47 ans d'embargo qui a causé plusieurs milliers de morts, ils se sont rendus compte que c'était inefficace. Bon, moi, c'est tout pour l'instant avec l'actualité. J'ai quelques autres nouvelles, seulement elles concernent la Colombie. Et je vais en reparler dans une chronique, justement, qui va porter sur la Colombie et sur le terrorisme étatique.
On s'en va faire un tour en musique tout de suite après cette très courte pause.
CFLX FM 95,5.
CFLX.qc.ca.
Celle-ci est dédiée à qui vous savez. Pas la peine de les nommer. On t'aime que des gueules viennent pour animer.
Oh nanana,
oh nanana. Faut pas me prendre pour un âne, tu ne respectes ni l'homme ni la femme. Écoute ce style, j'ai pas une des ballons. Tu ne me feras pas croire que tu respectes la femme et l'homme. Change pas le programme. Tu respectes pas l'homme et tu ne respectes pas la femme. Tu rentres pas dans la cité de peur de te faire guébrer. Chez toi y'a pas de bande et chez toi y'a pas de Pascal. Tu peux pas ressentir ce que ressent un jeune chez moi. Parle de ce que tu veux mais parle pas de ce que tu connais pas. Si la vie est dure, c'est que Dieu l'a voulu comme ça. Je ne sais pas comment tout cela un jour finira. Well, faut pas me prendre pour un âne. Tu ne respectes ni l'homme ni la femme. Écoute ce style.
tu ne respectes ni l'homme ni la femme. Écoute ce style, je suis pas une des ballons. Tu ne me feras pas croire que tu respectes la femme et l'homme. Tu crois que je vais rester assis dans mon bloc à attendre que la vie passe pendant que tu condenses la caillasse. Je veux pas pouvoir puiser dans mon stock, mais ce ne sera pas comme dans l'impasse, plutôt comme dans l'as des as. C'est bien fait pour ta face. Tu me laisses dans l'angoisse pour des caisses où je fais des casses. Ton nom c'est JR et mon quartier s'appelle Dallas. Bonjour le business, adieu l'homme hélas. Ce n'est pas que j'en suis fier, mais je n'ai guère les joies hélas. Faut pas me prendre pour un âne, tu ne respectes ni l'homme ni la femme. Écoute ce style, je suis pas une des ballons. Tu ne me feras pas croire que tu respectes la femme et l'homme.
Again, 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 again.
Faut pas me prendre pour un âne, tu ne respectes ni l'homme ni la femme. Écoute ce style, je suis pas une des ballons. Tu ne me feras pas croire que tu respectes la femme et l'homme. Tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, toutes les années. L'avenir est dans tes mains, à toi de bien le gérer. Si les terrains est miné, c'est normal, c'est fait exprès. C'est fait pour que tu saches un peu plus cogiter. Entre toi et lui, devine qui est le danger. Racassonné qu'au micro, personne ne peut nous arrêter. Si tu peux nous arrêter, tu peux toujours essayer. Tu seras pas le premier et tu seras pas le dernier. Well, well, faut pas me prendre pour un âne. Tu ne respectes ni l'homme ni la femme. Écoute ce style, je suis pas une des ballons. Tu ne me feras pas croire que tu respectes la femme et l'homme.
Cercle de feu, s'il fallait le nommer, ce serait la banlieue. Si tu vis dans le 16ème, tu n'as pas de chance, vieux. Quand c'est le 10 en haut lieu, pas grâce à l'excellent système. Anime, si tu le veux, si tu ne veux pas, c'est la même. T'es les big up, t'es mec à gain, les cultes et feu. Même si je te lis, c'est du sérieux, ça fait frémir, alors tant mieux. Ça vient du cœur de la banlieue, c'est la haine des gosses, c'est la rancœur des vieux messieurs.
Faut pas me prendre pour un âne, tu ne respectes ni l'homme ni la femme. Écoute ce style, je suis pas une des ballons. Tu ne me feras pas croire que tu respectes. La femme, écoute ce style. Je suis pas une des ballons. Tu ne me feras pas croire que tu respectes la femme et l'homme.
Thank you.
venait d'entendre une chanson d'Amon Tobin. Juste avant, c'était Ragasonic avec Faut pas me prendre pour un âne, un groupe de reggae de la France. Et là, on s'en va écouter un classique encore instrumental de Bob Marley. À tout de suite. D'entendre un extrait musical d'un classique de Bob Marley. On va, avant la pause, faire un tour rétrospective sur ce qui s'est passé la semaine dernière. On avait lu le communiqué de presse de la réaction des syndiqués du roi de la rôtisserie au Cocroti. Donc, on a, suite à l'offre patronale qui était de diminuer le nombre d'employés en fermant le service de livraison, suite à cette offre-là, il y a eu une réaction puis de la part des employés. En fait, ils se sont dit, on est tous allés en lockout en même temps, puis on va tous revenir en même temps. On s'en va écouter M. Pomerleau, qui est un employé du Cocroti depuis une vingtaine d'années, qui va nous donner son avis là-dessus.
Alors, Jean-Claude, livreur au Cocroti de Sherbrooke, depuis combien d'années?
Depuis 33 ans.
33 ans, donc ça veut dire que depuis 33 ans, fidèlement, vous avez livré à des milliers de personnes à Sherbrooke du poulet. Et hier, ou il y a quelques jours, une annonce où les livreurs seraient, dans la nouvelle proposition des frères Perrault, carrément évincés. C'est quoi votre réaction?
Ma réaction, je comprends pas ça, parce que c'est tellement fort, la livraison. On n'a pas 17 chars qui livrent à 40 heures par semaine. Sans arrêter, esprit, qu'on ne comprend pas la décision qui enlève la livraison. C'est la force du coq, la livraison. C'est ça qui est la force.
Et vous êtes plusieurs livreurs. Combien vous êtes de livreurs?
On est 17 livreurs à temps plein, puis il y en a 5 autres à temps partiel. Mais on est 17 livreurs qui font au-dessus de 40 heures par semaine.
Et vous, sans indiscret, vous avez quel âge, entre autres?
Moi, j'ai 59 ans.
Alors, ça veut dire que toujours au lendemain, là, vous perdriez votre emploi. Et vous avez combien de chances de vous trouver un emploi là, à 59 ans?
À 59 ans, là, je ne crois pas que j'ai des chances de trouver d'autres emplois. T'sais, je ne veux pas recommencer à fournir mon char pour la livraison au Stratos ou quelque chose de même. T'sais. Je ne sais pas, je suis découragé. Je ne pensais jamais qu'ils nous feraient ça. C'est incroyable. Si ça ne marcherait pas, OK. Puis ils veulent faire, mettons, du coq express. Poulet express, ils ont essayé, puis ils ont mis 3 chars de livraison pour voir rien. Parce que quand même, tu as du poulet express, ça prend la livraison.
Là, il y a une belle solidarité, par contre, de vos compagnons et compagnes de travail qui ont dit, on rentre pas, on rentre tout le monde ou on rentre pas pantoute. Alors, ça, comment vous, ça vous touche?
Ça me touche énormément. Tu sais, je remercie toute la gang tu sais, qui nous appuie, toute la gang. Tout le monde nous a tout appuyé. Si les livreurs ne sont pas là, nous autres, on ne rentre pas du tout, du tout.
Jean-Claude, bon combat, lâchez pas.
Merci, ça fait plaisir.
Tu as du film au ventre, un impérieux besoin de tourner, de prendre trip. La course Estrie, voilà le remède à ton irrépressible envie de court-métrage. La course Estrie est l'occasion unique de réaliser tes films dans un cadre professionnel, d'ajouter une formation de l'INIS à ton CV, de remporter des prix pour l'excellence de tes œuvres et de voir tes films être télédiffusés et distribués au Québec et dans le monde. La course Estrie est une expérience exceptionnelle qui propulse une carrière à tout cinéaste qui a du film au ventre. Inscris-toi avant le 6 avril sur courseestrie.com.
Rouge pour la vie.
Orange pour la fierté.
Jaune pour le soleil.
Vert pour la sérénité.
Indigo pour l'harmonie.
Violet pour l'esprit.
Découvrez toutes les couleurs de l'homosexualité et de la diversité sexuelle à l'émission Couleurs vives, tous les mardis à 22h sur les ondes de CFLX 95,5 FM.
Si vous avez des commentaires ou suggestions concernant notre programmation, contactez-nous par téléphone 819-566-2787 ou par courriel à l'adresse commentaires@cflx.qc.ca. CFLX 95,5 FM. La radio communautaire de l'Estrie.
Alors avec moi aujourd'hui, le président de la CSN en Estrie, Jean Lacharité, qui annonce ce matin une nouvelle pas très bonne pour les travailleurs et travailleuses du Cocroti.
Non, pas bonne pour les travailleuses et les travailleurs du Cocroti, mais pas bonne pour la clientèle du Cocroti non plus, parce que vendredi dernier, un vendredi 13, un train noir très sombre pour les travailleurs et pour la clientèle, l'employeur a annoncé au syndicat qu'il avait l'intention de fermer complètement son service de livraison, ce qui, à mon avis, est tout à fait inexplicable. Moi, j'en perds mon latin dans cette saga-là du Cocroti. Écoutez, il n'y a qu'un comptoir là et la livraison. Alors, on annonce comme employeur qu'on ferme le service de livraison. C'est certainement pas une décision d'affaires éclairée. C'est certainement pas pour des raisons financières qui feraient en sorte que la livraison mettra en péril l'institution qu'est le Cocroti. Donc, il faut tirer des conclusions. Alors, qu'est-ce que cherchent les frères Perrault? À mon avis, c'est une seule chose, c'est de casser le syndicat, d'éliminer le syndicat dans cette boîte-là. Et les travailleurs et les travailleuses ont répondu à ça en fin de semaine dans une assemblée générale. Ils ont dit à 97%, nous, quand on va rentrer tous ensemble avec les livreurs, sinon on ne rentre pas.
Parce que les livreurs représentent
plus de la moitié des travailleurs et travailleuses. Exactement, les livreurs représentent 24 personnes sur à peu près 48 personnes au total. Mais je pense qu'avec la cuisine, la rôtisserie, c'est le cœur de l'entreprise. Alors, on est en train de saigner le cœur de l'entreprise par cette décision-là de l'employeur. C'est inexplicable, c'est inexcusable. Et moi, je pense que les frères Perrault devraient avoir un peu plus de reconnaissance que ça, non seulement à l'égard de leurs travailleurs et de leurs travailleuses, mais à l'égard de la communauté, de la collectivité, puis de la clientèle qu'ils ont eu et qui ont contribué à les enrichir depuis plus de 40 ans. Si leur père voyait ça, je ne suis pas sûr qu'ils trouveraient ça très drôle, ce qui se passe actuellement.
Et la moyenne d'âge aussi est assez étonnante de voir c'est des travailleurs qui ont plus de 40 ans.
Ah, exactement. Écoutez, là, il y a 6 employés Roi du Cocroti qui ont plus de 200 ans de service dans cette entreprise-là. Alors, c'est quand même inimaginable. Alors là, on jette à la poubelle des gens qui ont accordé 30, 35, des fois 40 ans de leur vie à cette institution-là, sans aucune considération, avec le mépris le plus total. Alors, c'est inacceptable au 21e siècle, un comportement comme ça, comme employeur. Par chance qu'il y a des employeurs qui sont très différents des frères Perrault ici en Estrie.
Et la position de la CSN va continuer le combat, évidemment, dans cette saga-là.
Nous, écoutez, ce sont les travailleurs et travailleuses qui décident de la ligne à suivre. Ils ont dit non à 97 % aux frères Perrault en fin de semaine. Nous, on va les appuyer tant qu'ils vont vouloir maintenir le cap et tant qu'ils vont vouloir continuer leur lutte.
Monsieur la Sûreté, merci infiniment.
Ça m'a fait plaisir.
est de retour en ondes sur les ondes de CFélix 95.5 à l'émission La Rage du Peuple. Puis on va continuer avec deux nouvelles d'actualité qui concernent la Colombie. Et c'est ce qui va lancer une chronique spéciale sur la situation en Colombie en général. Puis pour un peu prouver l'idée qu'on s'en fait que la Colombie est un gouvernement proto-fasciste, ou s'il ne l'est pas déjà. Donc la première nouvelle concerne Alan Jarra, qui est un ancien otage des FARC, qui a été libéré récemment, puis qui a lancé un réquisitoire contre le président Uribe. Donc, l'ex-otage de la guérilla des FARC, Alan Jarra, libéré mardi après plus de 7 ans de captivité, a critiqué le président colombien Alvaro Uribe dans ses propos, dans ses premiers propos d'homme libre, tranchant avec l'attitude généralement enthousiaste ou discrète des autres otages. « Je pense profondément que le président Uribe n'a rien fait pour notre liberté », a déclaré l'ancien gouverneur de 51 ans, qui a été enlevé le 15 juillet 2001, lors d'une conférence de presse qui a duré plus de 2 heures dans sa ville natale, à Villavicencio, à 90 km au sud de Bogota. Avant lui, la plupart des otages libérés se montraient discrets, voire enthousiastes à l'égard du chef d'État colombien, qui jouit encore depuis après 6 ans de pouvoir d'un taux d'approbation de près de 70%. Alan Jarra, lui, s'est montré glacial. Lorsqu'un journaliste lui a demandé s'il avait parlé à Alvaro Uribe depuis sa libération, il a simplement répondu « Ici, dans cette salle, se trouve ceux à qui je dois la liberté ». L'ex-gouverneur, qui est un ingénieur de formation, a aussi estimé que l'attitude de son gouvernement, dont la priorité a été d'obtenir une victoire militaire sur la guérilla des forces armées révolutionnaires de Colombie, n'avait en rien favorisé l'échange entre les otages et les combattants des FARC incarcérés proposés par la guérilla. Semblerait, a-t-il ajouté, que le président trouve un intérêt dans la situation de guerre que vit le pays et que les FARC apprécient qu'Uribe soit au pouvoir. Ça ici, c'est une citation très importante puisque ça résume très bien la situation de l'État colombien face à la guérilla des FARC. Donc, évoquant une conversation avec un commandant des FARC qui a ajouté que celui-ci avait rappelé que les révolutions naissaient dans les crises. Rejetant les opérations militaires, Alan Jarra a avoué que pendant sa captivité, il avait eu davantage peur des opérations de l'armée. Il a vécu au moins 4 bombardements que des guérilleros et assuré que les tentatives de sauvetage des militaires soient le plus souvent des condamnations à mort. Il est urgent, souligne-t-il, qu'il y ait un échange humanitaire d'otages contre des combattants de la guérilla et une solution politique au conflit qui oppose à l'armée depuis plus de 40 ans. Si la politique de sécurité est si forte et puissante, comment un accord humanitaire pourra-t-il l'ébranler, s'est-il interrogé, non sans critiquer les enlèvements et les agissements de la guérilla. Alan Jarra en outre minimisé l'affaiblissement de la guérilla, thème central de la communication gouvernementale. Durant les 7 semaines que j'ai passées à marcher pour atteindre le lieu de rendez-vous de sa libération, il a pu vivre la vie quotidienne des FARC. Je ne sais pas comment cela est vu de l'extérieur, mais ils ne sont pas vaincus, a-t-il assuré. Il y a beaucoup de jeunes qui rejoignent les rangs de la guérilla, et tant que les causes qui poussent ces jeunes vers la guérilla seront présentes, le problème ne disparaîtra pas. On peut résumer, tant qu'il y aura de l'insécurité économique, il y aura de l'insécurité sociale. Les FARC, a-t-il encore affirmé, ont un réseau d'apprivoisonnement qui peut susciter la jalousie. Puis ça, c'est une question qu'on peut se poser. Quels sont ces fameux réseaux-là? Puis la drogue en est un, mais ce qui est intéressant de savoir, c'est que la drogue est aussi un des réseaux de financement des paramilitaires qui sont, si on veut, l'aile armée des grands propriétaires en Colombie, mais on va y revenir. La deuxième nouvelle, c'est un scandale d'écoute illégale qui a été fait sur demande du président Alvaro Uribe. Donc, le président colombien Uribe a démenti lundi avoir donné l'ordre de surveiller la vie privée des parlementaires, magistrats et journalistes qui seraient membres de l'opposition. Il déclare avoir jamais donné une seule fois l'ordre de surveiller la vie privée des gens, mais il y a peut-être... Bref. La déclaration d'Uribe intervient après la publication samedi par l'hebdomadaire Semana d'une enquête sur des écoutes présumées menées dans le département administratif de sécurité, le DAS, qui est comme le service de renseignement, qui est dépendant de la présidence qui a été faite à l'encontre de membres du gouvernement, de parlementaires et de journalistes qui sont réputés opposés au gouvernement, ainsi que de magistrats qui enquêtaient sur des scandales politiques. Ça intervient quand on pense que plus de 70 parlementaires sont impliqués dans des scandales des paramilitaires. Donc, Alvaro Uribe a affirmé également à Radio Cadena Nacional que les personnes impliquées appartenaient à un réseau mafieux qui porte atteinte à la démocratie colombienne, à la liberté au pays et au gouvernement. Généralement, c'est l'accusation que le gouvernement va toujours employer pour l'opposition, qu'elle soit syndicale, étudiante ou armée en Colombie. Puis on peut faire un rapprochement avec nous qui va systématiquement blâmer les terroristes. Mais donc, c'est sur ces deux nouvelles-là qu'on va commencer la chronique. Puis je vais commencer en vous donnant quelques chiffres. Entre 2002 et 2007, c'est plus de 13 600 personnes qui sont mortes, des civils, de violences politiques. C'est-à-dire, c'est des syndicalistes, des étudiants qui sont impliqués ou tout simplement des familles de paysans qui sont déplacés. C'est plus de 3 millions de déplacés depuis la présidence de M. Uribe. C'est des transferts de population qui sont liés en général à la culture de la coca et même à l'agriculture qui est industrielle. Dans le fond, les paysans qui refusent de cultiver la coca, qui est dans le fond une excellente source de financement autant pour les propriétaires terriens que pour la guérilla armée, sont déplacés au profit des narcotrafiquants. Puis c'est également lié à une exploitation commerciale industrielle. Donc, c'est l'industrie qui souhaite accumuler le plus de terres possible pour la production d'agrocarburants, ce qui devient même un enjeu international. Donc, l'État est implicitement lié à au déplacement des populations. On parle ici de quand même 3 millions de déplacés. C'est 6 800 000 hectares qui auraient été confisqués ou vendus illégalement par des fonctionnaires corrompus. Et là, ici, on ne parle pas nécessairement de l'opposition. C'est le cas du Choco, qui est, dans le fond, un excellent exemple, qui est une région de la côte pacifique qui est à majorité afro-colombienne, où des milliers de paysans ont été contraints de fuir la violence, qui ont donc abandonné leurs terres au méga projet commercial pour la culture de la palme africaine qui serait utilisée pour les agrocarburants. Donc, l'industrie et les grands propriétaires sont complices, ben, pour ne pas dire l'instigateur des déplacements de population qui fait rage en Colombie. Puis, également, un autre dossier qui est très difficile, c'est le dossier autochtone. Depuis 1991, dans le fond, il y a une charte des droits des Autochtones qui a été reconnue seulement depuis le gouvernement de M. Uribe. C'est presque devenu impossible de revendiquer ces droits face à cette charte-là. Et plus de 1600 ont été tués depuis 6 ans, 1600 Autochtones. Bon, donc le gouvernement, dans tous les cas, va toujours accuser l'opposition d'être liée au FARC, dans le fond, la guérilla armée, ce qui est essentiellement absurde parce que, généralement, ces mêmes personnes sont victimes également de la guérilla. Donc, voyant seulement les FARC comme ennemis, l'État pactise avec les gros propriétaires qui ont eux-mêmes leur réelle armée, soit les Aigles Noirs, qui est des paramilitaires, qui sont formés pour réprimer les syndicats, les étudiants, bref, les pauvres en général, l'opposition. Et tout ça sans épargner pour autant la guérilla. Donc, si on peut résumer un peu la situation, d'un côté, dans le côté droit, on va dire, sans faire référence au positionnement politique classique, il y a la drogue qui est soit une source de financement pour les gros propriétaires ou simplement pour les paramilitaires, qui est liée donc aux paramilitaires, qui sont l'aile armée des groupes propriétaires, mais qui vont également être utiles à l'État, donc au président Alfonso Uribe. Et d'un autre côté du coin gauche, on a la drogue qui sert à financer les contre-pouvoirs qui sont finalement devenus des pouvoirs autoritaires, comme la guérilla armée. Et la guérilla et son aile armée, donc, qui va justifier l'existence de l'État répressif et policier de Uribe, mais en même temps, Uribe va justifier l'existence de la politique armée des FARC et, bien sûr, toute la répression qui est exercée par ces deux groupes, bien, on va dire ces trois groupes-là, va tomber sur la tête des étudiants, des syndicats, des autochtones, des petits propriétaires, des petits agriculteurs. Ça, c'est la situation actuelle et la population est carrément prise en otage par l'État, par l'aile armée des grands propriétaires, les brigades fascistes paramilitaires, et d'un autre côté, par l'institution révolutionnaire qui est devenue les FARC et qui se finance dans tous les cas par la drogue. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une des interventions les plus répétées des États-Unis dans la région était justement pour contrer la culture de la drogue. Il faut croire que tout simplement renforcer l'institution d'exploitation de la drogue, un peu comme en Afghanistan, un peu comme la situation qui est en train de se faire en Afghanistan où la production d'opium est en augmentation, alors que justement, on souhaite l'enrayer. Il faudrait peut-être se demander justement aussi à qui sert le financement de la drogue, à qui sert-il? Est-ce que c'est aux États ou tout simplement aux plus riches? C'est une question qu'on peut se poser parce que généralement, ceux qui vont la prendre et qui vont en venir dépendants sont les pauvres. Donc, pour continuer, c'est environ 70 parlementaires qui sont impliqués dans des scandales qu'on appelle parapolitiques en faisant référence aux paramilitaires. Parmi eux, il y a M. Noguera, qui était l'ancien Brodois d'Uribe et qui était le directeur du département d'administration de sécurité, qui est justement l'agence de renseignement. Il y avait, entre autres, mis à les services du DAS, le département d'administration de sécurité, au service des paramilitaires dans une collusion complète et accomplie, et avait même fourni une liste de dirigeants syndicaux, professeurs, étudiants, etc., à assassiner. Donc, le gouvernement carrément fournit une liste noire à des paramilitaires. Puis après ça, on se demande pourquoi il y a autant de violence dans le pays. Bref, une autre chose intéressante, c'est que la presse, en général, va appartenir à, soit à l'administration de l'État ou à des proches du président. Donc, comme le journal El Tiempo, qui est généralement utilisé en référence dans les journaux occidentaux, et à la propriété du président, ainsi que la télé Radio Cadena Nacional va reléguer simplement la propagande du pouvoir. Puis, ce qui est malheureux là-dedans, c'est que c'est les seules principales sources pour les médias internationaux pour se référencer à la situation en Colombie. Donc, nous, quand on lit dans la presse des articles concernant la Colombie, c'est justement des articles qui vont servir l'État et qui vont donc le légitimiser et passer sa propagande. Il y a plusieurs syndicalistes qui disent, entre autres, que, dans le fond, la logique de l'État actuel pousse la société civile à la lutte armée. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus facile de former une révolution armée dans ce pays-là que de former un syndicat, puisque les syndicalistes sont constamment poursuivis par la police, ont constamment des menaces de mort et doivent se déplacer sans cesse. D'ailleurs, les organisations non gouvernementales sont, dans ce pays-là, incroyablement sécurisées, justement pour éviter que les paramilitaires ou tout simplement d'autres personnes qui sont liées au gouvernement viennent les assassiner. Donc, Uribe, actuellement, souhaite également modifier la constitution du pays pour pouvoir se représenter une troisième fois au pouvoir. Ça, dans la presse, on en parle très peu, et quand on en parle, c'est sans porter de jugement. Seulement quand le voisin, Hugo Chavez, réussit à obtenir par référendum une modification constitutionnelle pour se présenter de plusieurs fois, dans ce cas-là, on va le traiter de dictateur en pouvoir. Fait que moi, je peux comprendre que modifier la Constitution pour permettre à un président de se présenter encore et encore, c'est plutôt louche, surtout que, personnellement, je suis contre l'existence de l'État. Mais de là, avoir en Colombie la même situation se présenter avec une plus grande collusion de l'État avec les groupes d'extrême droite et les grands propriétaires, bien là, on peut parler de fascisme. Et c'est la conclusion, moi, que j'en viens. La Colombie est un État proto-fasciste, et c'est malheureux de voir qu'autant de personnes sont déplacés et risquent la mort uniquement pour leur implication dans des syndicats qui revendiquent des meilleures conditions de vie pour les travailleurs, travailleuses et pour tout simplement ou pour les Autochtones. Donc, c'est ce qui conclut en général cette chronique sur la Colombie. J'espère que ça a été clair, puis je tiens à citer mes sources. C'est un article, un excellent article d'ailleurs, qui est paru dans le Monde diplomatique de ce mois-ci, le numéro de février, et qui s'appelle « Tous les Colombiens ne s'appellent pas Ingrid ». Donc, on va aller continuer en musique. Jean-Martin, qu'est-ce qu'on va écouter?
On s'en va écouter Police State du groupe Dead Prez.
You have the emergence in human society of this thing that's called the state. What is the state? The state is this organized bureaucracy. It is the police department. It is the army, the navy. It is the prison system, the courts, and what have you. This is the state. It is a repressive organization. But the state, and well, you know, you've got to have the police, because if there were no police, look at what you'd be doing to yourselves. You'd be killing each other if there were no police. But the reality is, the police become necessary in human society. At the
precinct, you know how we think. Organize the hood under our chain banners. Red, black, and green instead of gang bandanas. FBI spying on us through the radio antennas. And I'm hitting cameras in the street like watching society. With no respect for the people's right to privacy. I take a slug for the cause like Huey P. While all you fake niggas try to copy Master P. I wanna be free to live, able to have what I need to live. Bring the power back to the street where the people live. We sick of working for crumbs and filling up the prisons. Dying over money and relying on religion for help. We do for self like ants in a colony. Organize the wealth into a socialist economy. A way of life based off the common needs. And all my comrades is ready, we just spreading the seed.
Yeah. Live a third of his life in a jail cell. Cause the world is controlled by the white male. And the people don't never get justice. And the women don't never get respected. And the problems don't never get solved. And the jobs don't never pay enough. So the rent always be late. Can you relate? We living in a police.
No more bondage, no more political monsters, no more secret space launches. Government department started it in the projects. Material objects, thousands up in the closets. Could have been invested in the future for my comrades. Battle contacts, primitive weapons out in combat. Many never come back, pretty niggas be running with gas. Rather get shot in they back than fire back. We tired of that, corporations hiring blacks. Denying the facts, exploiting us all over the map. That's why I write the shit I write in my raps. It's documented, I meant it, every day of the week. I live in it, breathing it. It's more than just fucking believing it. I'm holding in ones, rolling up my sleeves and shit. It's CeeLo for push-ups now. Many headed for one conclusion. Niggas ain't ready for revolution.
The average black male live a third of his life in a jail cell. Cause the world is controlled by the white male. And the people don't never get justice. And the women don't never get respected. And the problems don't never get solved. And the jobs don't never pay enough.
Ici André Robitaille. Les ampoules fluorocompactes durent 6 à 8 fois plus longtemps et consomment 5 fois moins d'énergie que les ampoules ordinaires à incandescence. Elles contiennent toutefois des gaz comme le mercure qui sont toxiques et polluants. Vous devez donc les manipuler avec précaution pour éviter de les briser. Rapportez vos ampoules fluorocompactes usagées à un éco-centre avec vos déchets domestiques dangereux. Cela évitera que le mercure qu'elles contiennent ne contamine l'environnement. Parce que chaque petit geste est important.
Un message de la Fondation québécoise en environnement.
Voici la météo sur l'Environnement Canada en ce mardi 24 février. Pour ce soir et cette nuit, ce sera des passages nuageux. On prévoit un minimum à moins 17 degrés. Et pour demain mercredi, ce sera alternance de soleil et de nuages. Ce sera ensoleillé à partir de la mi-journée. On prévoit un ennuagement graduel en soirée. Maximum prévu à moins 4 degrés. La météo à CFLX vous est présentée à toutes les heures.
CFLX 95,5 FM. La radio communautaire de l'Estrie.
Let people know that it is necessary that we must unify on all levels. In all the areas of oppression, we must deal with them. That right here in the confines of racist America, racism must be stopped.
We did not make the laws in this country. We are neither morally nor legally confined to those laws. Those laws that keep them up keep us down.
It's always been a society of working class whites pitted against blacks.
White America is by and large a racist people. And not only to black people in the colony here, but to people of color all over the world.
Black people need to be, and we are going to have to fight, we're going to have to struggle.